Alors, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Et on va commencer par lire quelques versets, se tremper dans le contexte. Versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Plusieurs mots qui sont importants là-dedans. Et je veux qu'on parle un petit peu des pharisiens. Vous les connaissez, on en a parlé souvent. On connaît un petit peu leur mode de pensée. Mais s'il y a une parabole que Jésus a donnée à ses disciples et qu'il nous donne aussi dans sa parole pour tenter d'expliquer aux pharisiens la grâce de Dieu et leur erreur face aux pécheurs. Bien, c'est bien celle-là, la parabole du fils perdu, et surtout la deuxième partie qu'on va voir, que moi j'ai appelée la parabole du fils aîné, donc le plus vieux des deux. Les pharisiens, on le sait, c'était des gens qui étaient zélés pour la loi. Mais la loi, pour eux, n'était pas le pédagogue qu'il devrait être pour leur faire réaliser leur péché. Non, pour eux, c'était une façon de plaire à Dieu. Leur mode de pensée, c'était, si je mets en pratique la loi, je vais plaire à Dieu. C'est un salut par les œuvres. Alors qu'on sait très bien, comme on l'a lu dans Romains, que c'est par grâce, c'est par la foi, c'est pas par les œuvres. Sinon, la grâce n'est pas une grâce. Alors, on a l'histoire de deux fils qui nous est donnée. Et les deux fils ont un cheminement assez similaire, comme on va voir. Cheminement spirituel. Parce que les deux vont sombrer dans le péché. Et puis, ils vont faire un affront assez grave à leur père. Ils vont développer de l'amertume, de la rancœur et du mépris pour leur père. Il y en a un des deux qui va être touché par le père qui, lui, est aimant, hein, qui leur présente une démonstration d'amour inconditionnel. Alors, le fils prodigue, lorsqu'il marche ou s'en revient à la maison, qu'il voit son père lui tendre les bras et l'embrasser, son cœur fond. Hein? Son cœur, il voit le message d'amour et il le reçoit dans son cœur. Il se repent à ce moment-là, son père le pardonne, ils sont réconciliés, il est réinstitué comme fils. Celui qui était perdu est retrouvé, celui qui était mort est revenu à la vie. Mais l'autre fils, qui a un cheminement parallèle similaire, lui aussi, on va voir qu'il va s'enfoncer dans ce mépris pour son père. Mais il va en rester là. Le père va l'inviter avec le même amour à se joindre au festin. Hein, il a tué le veau gras pour le fils prodigue. « Viens, mon fils, qui revient des champs, viens, joins-toi à la fête. » Il n'était pas capable. On va voir pourquoi. Alors, l'attitude de ce fils-là correspond à l'attitude des pharisiens. Un dédain pour ce pécheur notoire qui a sombré tellement creux dans le péché, mais qui est pardonné, qui est réconcilié, qui est honoré par un banquet, voyons donc. Alors, il y a un dédain, là. Ça va rejoindre les pharisiens qui ne pouvaient autrement que s'identifier dans cette histoire-là à ce fils aîné. Alors, aujourd'hui, on va suivre surtout le fils aîné dans son périple, mais on va regarder d'abord un petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, on va lire l'histoire d'abord, pour se rappeler les paroles. Le Seigneur parle, c'est tellement précis, concis, on voudrait l'écrire mieux qu'on ne serait pas capable. Mais c'est pas long, là. Quelques mots, quelques phrases, puis on est déjà très loin dans l'histoire. C'est extraordinaire. Alors, on va lire ça attentivement. Et puis, on va suivre les périples des deux garçons. Alors, verset 11. Parabole du fils perdu. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux et personne ne lui donnait quoi que ce soit. Étant rentré à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des jeunes garçons et lui demanda ce que c'était. Ce jeune garçon lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ou sain et sauf. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors rapidement, j'ai divisé cette étude-là en deux grands chapitres. Le premier, grand A, ceux qui prennent des notes. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est le périple du fils prodigue. Et on avait quatre points sous ce grand chapitre A. D'abord, un départ très inusité. On se souvient, comme on a lu, que le plus jeune des deux fils va trouver son père et lui demande donne-moi ma part de mon héritage. Et on a vu que dans le Moyen-Orient, en Israël, cette chose-là, ça ne se faisait pas parce que c'était l'équivalent de souhaiter la mort de son père. Alors on voit tout le mépris qu'il avait pour son père et combien il était égoïste. Il voulait suivre sa propre voie avec les richesses de son père. Et ce qui est aussi inusité dans ce départ-là, c'est que le père, dans son amour, lui donne non seulement la possession du tiers de son avoir, du un tiers, parce qu'il y avait un deux tiers qui revenait au fils aîné, il lui donne la possession, mais il lui donne le droit d'en disposer aussi. Alors, il a pu vendre les terres, ramasser ses sous et quitter pour un pays lointain. Donc, un départ très, très inusité, avec un affront inimaginable pour le père de famille. Ensuite, un séjour très éprouvant, le périple du fils prodigue. Deuxièmement, un séjour très éprouvant. Il dépense tout son argent et il y a la famine dans le pays. Il en vient à être au bout de ses ressources. Personne ne voulait lui donner à manger. Puis les carouges au pourceau, il y avait tellement peu de calories là-dedans, c'était tellement amer, comme on a dit, qu'on ne pouvait pas survivre là-dessus, pas du tout. Alors, il rentre en lui-même, et là, il fomente un plan pour retourner vers son père, parce qu'il dit, mon père a des serviteurs qui mangent du pain à satiété, alors je vais retourner vers mon père. Quoique, il devait avoir des craintes en lui, parce qu'il fallait qu'il s'attende à ce que son père soit en colère contre lui, son frère aussi, parce qu'il l'a laissé seul sur le domaine. Et toute la communauté tissée serrée de la famille étendue et du village qui avait vu cet affront épouvantable qu'il avait fait à son père, il devait s'attendre à avoir de l'animosité au retour. Donc, un séjour très éprouvant. Alors là, il fomente un plan pour assurer son avenir. Il prépare une espèce de formule de repentance sur le bout des lèvres, mais surtout, il veut que son père, il commande son père de l'engager comme un esclave mercenaire, comme un missios, comme quelqu'un qui va ne pas vivre sur le domaine, mais vivre dans le village, mais venir pour travailler et avoir son salaire. Et en récoltant son salaire, il se disait probablement, je vais pouvoir refaire un peu ma richesse, mais rembourser mon père, comme ça, je vais amoindrir sa colère contre moi. Hein? Ça ne réglait pas le dossier de son frère, ni de la communauté, mais en tout cas, au moins ça visait à calmer les ardeurs de la colère possible de son père. Alors, il s'en va. On se souvient qu'il était au bout de ses ressources. Là. Il part d'un pays lointain, puis il s'en revient. Alors, dans quel état il est arrivé? Moi, je vous suggère qu'il est arrivé sain et sauf, hors de danger, mais magané, comme on dit en bon québécois. Courbé, la langue à terre, la tête entre les genoux, les vêtements à haillons, tout crotté, enfin... Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Alors donc, ça c'était troisièmement un plan pour assurer son avenir, mais quatrièmement, un accueil très inattendu. Son père l'avait attendu depuis le moment où il était parti et il espérait son retour. Et quand il a su, probablement par les gens du village, qu'il arrivait, il est sorti à sa rencontre en courant. Un homme de sa noblesse, de son importance, ne court pas en Israël. C'est humiliant. Mais lui court vers son fils, l'enlace, l'embrasse. Et là, la formule de repentance devient une vraie formule de repentance. Et la demande pour être un employé, écoute, le père le réconcilie, lui donne le statut de fils. Il n'a pas besoin d'être esclave. Il devient fils à part entière dans la famille. Alors, il ne s'attendait pas à ça. Alors, c'est une démonstration d'amour inconditionnel et de grâce que le Père a fait envers son fils, qui pourtant lui avait fait un affront innommable. Alors, le fils qui était de toute évidence mort est revenu à la vie. Il a été pardonné, réconcilié, réinstitué comme fils, redonné de l'autorité sur le domaine. Et on tue le veau gras pour se réjouir. Hein, un pécheur notoire, au même titre que les prostituées puis les publicains dont on parlait tantôt, un pécheur notoire a été gracié, a été pardonné. Et celui-là qui était mort est revenu à la vie. Alors, il fallait se réjouir. Alors, le Père commande un grand festin, un grand banquet de réjouissance. Et c'est là qu'on va commencer le grand chapitre B, qui est le périple du fils aîné. On avait le périple tantôt du fils prodigue, maintenant le périple du fils le plus vieux, le fils aîné. Et là, il faut que je vous raconte comment ça se passe, ça, ces grandes cérémonies, ces grands banquets. Nous, on en a vécu un hier soir, un banquet moyen-oriental au 21e siècle, pas tout à fait pareil. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous décrire ça. Alors, le veau gras, on le coupe en quartiers. Et on le fait cuire, ce qu'on me dit dans mes lectures, toujours Kenneth Bailey qui me raconte ça, fait cuire le veau dans un four à pain, dans plusieurs fours à pain probablement, coupé en quartiers. Et on s'organisait bien sûr pour que le repas soit prêt en début de soirée. Et en début de soirée, c'était le moment où les ouvriers revenaient des champs. Alors on s'organisait pour synchroniser ça un petit peu comme ça. Et lorsque certaines portions de viande commençaient à être prêtes, là, les musiciens commençaient à faire entendre leur musique. Et la musique était... on pouvait reconnaître le genre de festin que c'était par les mélodies et par les rythmes. Alors là, c'était évident que c'était des mélodies et des rythmes réjouissants. C'est une musique joyeuse. Et... Donc, lorsque la musique se faisait entendre comme ça, bien, c'était le signal pour tous ceux qui étaient invités dans la famille étendue, dans le village avoisinant, parce qu'on le dit, on tuait le veau gras pour une centaine de personnes, là. C'était pas juste un petit agneau, là. C'était un grand festin pour une centaine de personnes. Alors, la musique se fait entendre, les gens disent « Ah, OK, on a été invités au festin, ça commence, on va s'approcher ». Et c'était pas très, très structuré. Hein? Alors, les gens arrivaient au moment où ils étaient prêts. Puis là, ils commençaient à chanter, commençaient à danser, commençaient à jaser, commençaient à manger, à boire. Et il y en a qui sortaient, puis il y en a qui rentraient. C'était en mouvement. C'était en mouvement. Pendant ce temps-là, la musique se fait entendre. Et ça continue comme ça pour une bonne partie de la moitié de la soirée, là. Peut-être pas jusqu'à tard comme hier, là, mais une bonne partie de la soirée. Et tant que les gens mangent comme ça, puis que la fête continue, la musique se fait entendre. Et c'était les adultes qui entraient dans un festin, les grands festins comme ça, c'est les adultes qui entraient dans la maison pour festoyer. Les enfants, par contre, venaient, mais ils restaient à l'extérieur. À l'extérieur, devant la maison, il y avait comme une cour délimitée, comme on dit. Et les enfants étaient là, à l'extérieur, puis entendaient la musique, puis ils dansaient. Puis ils faisaient lever de la poussière, bien sûr, avec leur pas de danse. Et voilà. L'autre chose aussi, c'est que le fils aîné, dont on parle ici, le fils aîné, dans la coutume, avait comme une tâche semi-officielle. Dans ces grands banquets-là, il servait un petit peu de maître d'hôte, de majordome, c'est tous des synonymes là. le gérant des esclaves, si vous voulez. Pour signifier ça à ses invités, le père, ce qu'il demandait à son fils aîné, exceptionnellement pour cette occasion-là, il demandait « Enlève tes souliers ». Les gens vont être identifiés comme un serviteur, parce qu'on a vu que les serviteurs, les esclaves, se véhiculaient pieds nus sur le domaine. Alors, exceptionnellement là, pour cette occasion-là, le fils aîné avait cette responsabilité-là d'enlever ses souliers, de se présenter comme étant le serviteur en chef. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il souhaitait la bienvenue aux gens, il les complimentait. Madame, vous avez un beau chapeau, ça fait ressortir la couleur de vos yeux. Toutes sortes de compliments. Vous avez acquis une nouvelle terre, monsieur, félicitations, ainsi de suite. Puis il recevait aussi les compliments pour la personne qui était honorée. Et puis là, il demandait, est-ce que vous avez assez à manger, vous avez assez à boire? Puis il commandait les serviteurs d'aller répondre aux besoins à gauche et à droite. Alors, le fils aîné avait comme ça des responsabilités qui étaient quand même... on dit semi-officiel, mais on s'attendait de cela du fils aîné. Et sa seule présence à la fête, ça signalait qu'il se joignait à sa famille pour honorer lui aussi l'invité d'honneur. Voilà. Alors, le père commande un grand festin comme ça de réjouissance parce qu'il s'est réconcilié avec son fils prodigue qui était perdu, qui a été retrouvé. Alors, tout comme le fils prodigue s'est approché de la maison familiale, lorsque le père l'a accueilli à bras ouverts, eh bien, le fils aîné revient des champs, s'approche de la maison paternelle. Et là, il entend la musique. Il dit « Ah! » Parce que le fils prodigue est revenu le matin. Lui était au champ, il ne savait pas. Ah! La musique. La musique est joyeuse. Il y a une fête de réjouissance. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je ne sais pas si vos textes disent qu'il a rencontré un serviteur, mais en fait, il a rencontré un jeune garçon. Le terme qui est là pour serviteur peut très, très bien se traduire par jeune garçon. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il est arrivé dans la cour avant de la maison. Les jeunes garçons étaient là, dansaient. On dit surtout les garçons. Je ne sais pas pourquoi les filles ne dansaient pas, mais en tout cas. Il voit un nuage de poussière, OK, les jeunes. Alors, il interpelle un des jeunes garçons, puis il commence à lui poser des questions. Et le verbe qu'on a là, lorsqu'on dit verset 26, il appela un des jeunes garçons, lui demanda ce que c'était. Le temps du verbe demanda, c'est un temps du verbe continu. Alors, c'était pas juste une question, c'était un interrogatoire. Là. Il recueillit de l'information. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, le jeune garçon lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras. » Ça vient renforcer le fait qu'on pense que c'est un jeune garçon, parce que si ça avait été un serviteur, il aurait dit, « Mon maître a fait tuer le veau gras pour ton frère qui est revenu. » Là, il dit, « Ton père, c'est un jeune garçon. Alors, il dit, « Ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Mais il en a su plus que ça. Il a su que son fils, que son frère, l'enfant prodigue, était revenu bredouille, en banqueroute totale, parce qu'il l'a dit plus loin, comme on va voir. Il dit, il a mangé ton bien avec des prostituées, là. Alors, donc, c'est vraiment un interrogatoire. Il apprend beaucoup de choses par rapport à la fête qu'il a et par rapport à son frère. Euh, J'ai sauté un point. Il va falloir que je revienne là-dessus. C'est important. Mais je vais finir ici. Alors, c'est ça. Donc, il apprend plein de choses sur son frère, mais surtout que son père s'est réconcilié avec lui et que le banquet est en son honneur. Point très, très important. Alors, il doit cogiter les informations rapidement. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de difficultés avec le fait d'admettre que son frère, qui a sombré dans le péché, qui a été si insolent et arrogant pour son père, puisse être comme ça pardonné et honoré dans une telle fête. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il, comme le texte le dit, il se met en colère et ne voulut pas entrer dans la maison. Donc, ce qu'on s'attendait de lui, qu'il soit le serviteur en chef à la fête, il refuse de faire ça. Et il se met en colère, une colère qui devait être assez importante parce que, et publique, parce que malgré la musique, malgré les enfants qui chantaient, qui dansaient, son père l'a entendu et est sorti à sa rencontre. Et forcément aussi, beaucoup d'invités qui étaient là se sont rendus compte que son fils aîné était en crise de colère. Alors, ça a été une colère publique. Donc, ça, c'est le deuxième point. J'ai sauté le premier, je suis désolé. Alors, c'est un premier affront public. Et c'est tout un affront aussi, parce qu'on sait que au Moyen-Orient, encore une fois, on a une grande considération pour l'autorité paternelle. On n'a qu'à penser au livre d'Esther, premier chapitre, le roi Assuérus, qui faisait visiter son palais à des dignitaires d'autres royaumes et a voulu, à un moment donné, montrer la beauté de sa femme, la reine Vasti. Alors, il l'a fait venir, il demande à ses serviteurs, « Allez chercher Vasti, je veux que les dignitaires ici la voient, voient sa grande beauté. » Vasti n'a pas voulu jouer dans ce film-là. Elle a refusé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère, lui aussi. Il l'a destituée. Elle a perdu sa couronne. Et il a dit, « Je fais ça, destituer la reine Vasti, parce que je veux que toutes les femmes dans mon royaume soient soumises à leur mari, du plus grand au plus petit. » Vous irez voir ça, premier chapitre d'Esther. Alors, c'était une notion qui était fondamentale, très importante. On avait une haute considération pour le respect de cette autorité paternelle dans la famille. Et bien voilà, le fils fait fi de ses responsabilités dans un tel banquet et refuse d'entrer et d'offrir sa collaboration et humilie son père. Par insubordination à son autorité. Alors, c'était grave, presque aussi grave que de demander son héritage à son père vivant. Alors, on voit donc là un premier affront public. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 1, juste avant ça, c'est au début du chapitre 15, lorsque le fils prodigue demande à son père d'avoir son héritage, le fils aîné est là, il reçoit lui aussi sa part. Il n'en a pas le droit de disposition, mais il reçoit la propriété en possession. Et ce qu'on remarque, c'est que il ne dit pas un mot. On ne l'entend pas. Silence radio complet. Alors, le premier point, c'est un premier silence éloquent. Je dis un premier parce qu'il va y en avoir un deuxième plus tard. Un premier silence éloquent. Un silence qui en dit beaucoup. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Bien, d'abord, le fils prodigue fait une demande qui était inadmissible, inconcevable, qui ne se faisait pas. Il reçoit son héritage, mais lui, le fils aîné, il le reçoit aussi, parce que le texte nous dit bien, et le père leur donna, leur partagea son bien aux deux. Il le reçoit. Il profite de cet affront épouvantable à son père, il le reçoit. Il reste silencieux, il ne dit pas un mot. Ensuite, lorsque deux membres d'une famille au Moyen-Orient sont en discorde, sont en chicane, bien, il y a une responsabilité qui est donnée aux plus proches parents de s'impliquer et de tenter de les réconcilier. Lui, c'est le plus proche parent entre son frère et son père. Il ne fait rien de ça. Il n'a pas le souci là, de parler à son frère et de lui dire, « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne se fait pas. » Puis il n'a pas le souci de réconforter son père non plus. Il n'a pas un mot qui se dit. Et ensuite, il ne démontre pas non plus, vous savez, le psaume 133, verset 1, « Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. » Ben, c'est un principe, ça, en Israël. Les frères sont supposés d'être là, puis de rester dans le domaine, puis de prendre la relève du père, puis de faire fructifier le domaine après son départ. Montre pas d'être désir pour ça. C'est un silence qui en dit long. Hein. Ce premier silence est là. Quand ça nous montre que dans son cheminement, dans son périple, parce qu'on parle d'un périple du fils aîné, là, c'est un périple spirituel, on voit que il semble avoir aucun souci pour le bien-être de son frère ou de son père. Et son périple commence par un déclin spirituel caractérisé par un manque d'amour, un manque de compassion envers ces deux membres-là de sa famille. Donc, le deuxième point, c'était un premier affront public, comme on a vu. Il refuse d'entrer, il refuse ses responsabilités en tant que fils aîné. Et là, bien, son périple spirituel se poursuit dans un déclin qui l'amène encore plus bas et qui est marqué par une grande insubordination à l'autorité de son père. Point 3, là, on a une première supplication publique. Alors là, c'est le père qui intervient. Il sort dehors, son fils aîné est en colère. Refuse d'entrer. Le père est humilié devant ses invités. Voyons donc, ça se fait pas ça, en public en plus comme ça. Un fils aîné qui contrôle plus ses émotions, qui est en crise de colère. On s'attendrait à ce qu'il lui impose une réforme qu'il n'oubliera pas. Mais non. Encore une fois, comme pour le fils prodigue. Il sort, chapitre 16, le père, dans son humiliation devant ses invités. Et il le pria d'entrer. Il le supplia d'entrer. Il l'implora d'entrer. « Mon fils, viens, réjouis-toi avec nous. » Ce n'est pas sans nous rappeler le Seigneur Jésus, parce que le Père sort dans l'humiliation et offre sa grâce, son amour inconditionnel. Le Christ a fait la même chose à la croix. Il a subi toute l'humiliation qui a précédé la croix et l'humiliation de la croix elle-même, mais tout en offrant son amour inconditionnel, sa grâce pour les pécheurs. Alors donc, on a troisièmement ici une première supplication publique du Père envers son fils aîné. Quelle va être la réponse du fils aîné? Il y a une démonstration d'amour, là. Un père qui est prêt à l'accueillir, à le pardonner. Quatrièmement, un deuxième affront public de la part du fils aîné. versets 39 et 30, là, il part dans un discours. Il y a plusieurs choses qu'il dit directement, mais il y a plusieurs choses aussi qu'on peut lire entre les lignes qui sont sous-entendues. On va essayer de décortiquer ça rapidement. Et plus il parle, le fils aîné, plus il se cale, comme on dit en bon québécois encore une fois, plus il se condamne lui-même. Alors il commence, si vous regardez au verset 29, « Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Pourtant, son frère, lui, le fils prodigue, qui est un pécheur notoire, quand il s'adressait à son père, même quand il a demandé son héritage de son vivant, il s'adresse à lui en disant, « Mon père, donne-moi la part de bien qu'il me donnera. » Il s'adresse à lui avec la formule respectueuse, « Mon père. » Et quand il exprime sa formule de repentance, ici, c'est « mon père », aux autres versets plus loin. Mais là, le fils aîné, qui est supposé d'être beaucoup meilleur moralement que son frère prodigue, pas de formule de respect. C'est quand même significatif. Il dit « voici ». Il y a tant d'années que je te sers. Deuxième point, 4.2. Il dit il y a tant d'années que je te sers. Mais le verbe là peut se traduire littéralement, quand on va voir dans la Bible Darby, des Bibles littérales. Tant d'années que je te sers comme un esclave. Alors, il avoue ici que toutes ces années où il a servi son père, il se considérait comme un esclave. Et il voit le festin du veau gras qui a été offert pour son frère comme étant une espèce de compte-rendu de la valeur de son frère. Alors il dit, lui tu lui donnes le veau gras, mais moi tu ne m'as jamais même donné un chevreau pour aller festoyer avec mes amis. Alors, c'est un petit peu comme s'il était en négociation syndicale, en train de dire, moi, je travaille pour toi, puis où est-ce qu'elle est ma récompense, où est-ce qu'il est mon chevreau, où est-ce qu'il est mon salaire, hein, la clause salariale dans la convention collective, là. Se voyait comme un esclave. 4.3, après avoir témoigné d'une insubordination à l'autorité de son père, qui était un manquement évident au cinquième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Il est encore capable de dire « Il y a tant d'années que je te sers comme un esclave sans jamais avoir transgressé tes ordres ». On s'attendait de lui à ce qu'il serve comme serviteur en chef lors du banquet. Fait fi de tout ça. Alors, il y a de l'affront quand même. Alors, sa rébellion est évidente par le fait qu'il se met en colère puis il refuse d'obéir à son père. Pourtant, il dit, je t'ai toujours obéi. Quatrièmement, 4.4, il accuse son père de favoritisme. Hein? Lui, mon frère, a eu un veau gras. Moi, j'ai même pas eu un chevreau. Mais il oublie que tout ce temps-là où il a vécu avec son père avait l'usufruit de la terre. Alors, l'usufruit, c'est ce que rapporte la terre, mais qui ne lui appartient plus au père. Il l'avait donné au fils. Mais l'usufruit, c'est le père qui faisait ce qu'il voulait avec. Et il a nourri son fils aîné avec ça, toutes ces années-là. Puis il oublie aussi, le fils aîné, que le veau gras qui a été tué, le banquet, c'était pour lui aussi, là. Non, tu as du favoritisme. Tu traites mieux mon frère prodigue que moi. Il déclare, 4.5, déclare qu'il ne fait pas partie de la famille. Son souhait, lui, c'était pas de se réjouir avec sa famille, c'était d'aller manger un chevreau avec ses potes. « Et pas mieux que son frère prodigue, finalement, parce que le frère prodigue voulait avoir son lot, puis aller dépenser ça dans une contrée éloignée, parmi les gentils. Lui, il veut avoir son lot, puis aller dépenser ça avec ses potes. Une autre chose aussi dans son discours qui fait que il se voit comme un étranger à la famille, c'est qu'il va dire, verset 30, « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, etc., quand ton fils est arrivé, il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils », comme si lui était étranger à cette famille-là. Il se voyait vraiment comme un membre exclu de la famille. Ensuite, il nous déclare ce qui, lui procure de la joie. Ben, c'est un bon repas, hein? Un bon chevreau rôti sur le feu avec ses amis, c'est ça qui lui procure de la joie. Alors que ce qui procure de la joie au père, c'est le fils qui est revenu, le fils qui était perdu, qui a été retrouvé, le fils qui a avoué ses fautes et puis qui a demandé pardon. Alors, c'est pas le même genre de joie. Le chevreau, c'est très éphémère, alors que l'autre, c'est une joie beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Ensuite, il attaque la réputation de son jeune frère, 4.9. Excusez, 4.7. Il attaque la réputation de son jeune frère. Il a mangé, il dit, ton bien avec des prostituées. Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, il dit, c'est pas son bien qu'il a dilapidé auprès des gentils dans le pays éloigné. C'est ton bien. Si tu avais aimé comme il aurait dû, il aurait préservé ce bien-là pour pouvoir prendre soin de toi dans tes vieux jours, quand tu vas être moins apte à prendre soin de toi puis à développer ton commerce et tout. Non, il ne t'aime pas. Il a dilapidé ton bien. Puis là, il ajoute avec des prostituées. Alors, nos versions vont parler là, qu'il est allé dans un pays éloigné, puis il a vécu dans la débauche, mais ce n'est pas nécessairement la traduction, c'est pas nécessairement ça que le texte dit. Et ça semble être une exagération du fils aîné pour détruire la réputation de son frère. Et on voit son mépris là, qui s'installe pour son frère. Et là, 4.8, le dernier. Quand on considère le discours du frère aîné qu'on vient de regarder, et qu'on couple ça avec le discours qui suit du père, la discussion, on pourrait l'imaginer qui pourrait aller dans un sens que je vais vous exprimer ici. Premièrement, le fils dit, tu n'as jamais voulu me donner même un chevreau pour me réjouir avec mes potes, avec mes amis. Et le père répond, mais parce qu'on voit, il dit, mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Alors, le père lui répond, « Mais je ne t'ai jamais donné un chevreau, mais tu possèdes déjà tout. » Ben là, le fils lui rappelle, « Oui, mais père, je te rappelle que c'est toi qui as le droit de disposer de ce que je possède. C'est toi qui as l'usufruit, là. » Alors, le père lui dit, « Ah, si je comprends bien, toi aussi, tu voudrais me voir mort pour avoir le droit de disposer de ces biens-là. » Alors, la discussion ne va pas là, mais on peut s'imaginer assez facilement que si le Seigneur avait continué l'histoire de quelques versets, ça aurait pu glisser dans ce sens-là. Alors, il y a un profond mépris dans le cœur du fils aîné, et on voit son périple spirituel décliné encore davantage, où là, c'est caractérisé vraiment par un mépris pour son père. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Comment le père va répondre? Versets 31 et 32. Encore une fois, elle s'attendrait à ce que le père soit furieux, parce que tout ce temps-là, le fils, là, il chahute, là. Il chahute son désaccord, puis son amertume, son mépris et tout ça. C'est public, c'est devant tout le monde. Il est en colère. Alors, on s'attendrait que le Père le réprimande ou le corrige. Mais non. Encore une fois, on voit son attitude d'un Père aimant qui démontre un amour inconditionnel pour son fils et continue de l'inviter. Il dit « Mon enfant ». Premièrement, 5.1, en contraste avec son aîné, qui n'a même pas pris de formule respectueuse pour s'adresser à lui. Lui, il dit pas « mon fils », il dit « mon enfant ». Formule encore plus affectueuse. Lui dit le Père, « Tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et est revenu à la vie. » Alors, 5.1, formule qui démontre une grande affection du Père envers son fils, « mon enfant ». 5.2, on a l'impression quand on lit ça comme ça que le Père est en train de s'excuser, puis de s'expliquer, puis de faire une apologie pour le fait qu'il ait fait une fête, mais c'est pas ça du tout. Il n'est pas en train de s'excuser, ni de faire une apologie. C'était pas la coutume non plus pour des paternels dans des familles moyen-orientales de commencer à expliquer, puis à défendre les décisions qu'ils ont prises, puis les choses qu'ils ont dites. Non, non. Il n'est pas en train de s'excuser puis de faire une apologie. Simplement en train, encore une fois, de faire une invitation à son fils pour qu'il vienne et qu'il se réjouisse. Et on va voir que rentrer là puis se réjouir, c'est lourd de signification. Là. C'est pour ça que le fils n'est pas convaincu. Là. On va voir ça tantôt. 5.3, en lui disant « Tout ce qui est à moi est à toi », bien, il l'assure que le retour de son frère n'affecte en rien ses droits en tant que fils aîné. Son droit d'aînesse, ça n'affecte en rien tout ça. 5.4, le père démontre que son aîné n'est pas de la catégorie des esclaves. Lui, il se voyait comme un esclave. Hein, puis il négociait un salaire, une rétribution pour ses services. Mais il lui dit, « Tout ce que j'ai est à toi. » Tu possèdes déjà tout. Tu es mon héritier. Pas un esclave, ça, là. C'est un fils. Tu n'as pas besoin d'un salaire comme un esclave mercenaire qui se fait payer pour ses services. Puis il n'y a aucun maître qui quitte un banquet dans l'humiliation pour aller témoigner de l'affection sans borne pour un esclave qui est insolent. Pour un fils, mais pas pour un esclave. Alors son père a dit non. Fais pas partie de la catégorie des esclaves. T'es mon fils. Alors, son discours, 5.5, mais c'est encore une fois un vibrant appel à comprendre puis à accepter la grâce qui a été faite à son frère prodigue. Et ça, c'est là qu'il réside beaucoup de la difficulté. Puis à comprendre aussi puis à s'approprier la grâce que le Père lui fait à lui de l'accueillir dans la fête. Sixième point, un deuxième silence éloquent. Parce que vous remarquez, à la fin du verset 32, il n'y en a plus. C'est comme s'il en manquait un. On souhaiterait que le fils aîné réponde. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur laisse un point d'interrogation ici. Les trois paraboles précédentes, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils prodigue perdu, se terminent dans la joie. Ici, la portion de parabole pour le fils aîné, il n'y a pas de verset pour nous indiquer de la joie, pour son cas à lui en tout cas. Alors, tout porte à croire que le fils aîné, ici, il demeure silencieux, un deuxième silence éloquent qui nous dit qu'il n'est jamais entré et n'a jamais reconnu son tort et ne s'est pas réconcilié avec son père. Puis la joie de son père dans tout ça, bien, elle n'a pas été complète parce que son autre fils aîné ne s'est pas prêté à la fête. Septièmement et dernièrement, remarque finale, on a l'histoire de deux fils qui ont un parcours spirituel similaire. Les deux ont développé beaucoup d'amertume et de mépris pour leur père. Les deux ont fait un affront très grave, un en demandant son héritage et l'autre en désobéissant aux responsabilités que son père lui donnait. Donc, ils ont fait un affront très grave et ils l'ont humilié profondément, leur père. Et malgré cela, les deux ont reçu la même démonstration d'amour inconditionnel d'un père qui a accepté d'être ainsi humilié. Mais là s'arrête le parallèle entre les deux. Le fils prodigue a reçu le message d'amour de son père droit au cœur. S'est repenti, a été pardonné, comme on le dit, réconcilié, restitué comme fils dans la famille avec toute l'autorité que ça comportait. Mais le fils aîné, lui, il est resté là, debout, à chahuter son mépris, son désaccord. Alors, comme je vous ai posé la question au début, lequel des deux fils a une attitude qui ressemble à celle des pharisiens? Bien, c'est l'attitude du fils aîné qui reste debout à l'extérieur puis qui murmure contre le fait que des pécheurs notoires comme son frère a pu être pardonné comme ça, gracié tout d'un coup et avoir un veau gras, une grande fête et être honoré. Alors les pharisiens qui étaient témoins de tout ça, parce que Jésus leur raconte ça devant les scribes et les pharisiens, sont interpellés par ce fils aîné. Alors le père, dans sa grâce, le père de cette famille-là, invite l'aîné à entrer et se réjouir à la fête. Mais la même invitation s'étend aux pharisiens qui écoutent ça. Mais entrer dans la maison, ici c'est important, et se joindre à la fête, c'est lourd de signification. Quatre choses que ça veut dire. Premièrement, il fallait accepter qu'un pécheur notoire ait été gracié et honoré. Deuxièmement, ça voulait dire qu'il fallait vouloir de tout cœur se réjouir avec ce pécheur parce qu'il a été pardonné. Troisièmement, plus personnellement, ça voulait dire qu'on reconnaît nos torts d'avoir murmuré contre cet état de fait, contre le fait que le pécheur ait été pardonné. Et dans le cas du fils aîné qui a chahuté son désaccord, il fallait qu'il accepte de dire « j'ai eu tort de faire ça ». Autrement dit, « j'ai péché de faire ça ». Et quatrièmement, il fallait comprendre et s'approprier avec reconnaissance et humilité la grâce qui nous est faite de participer à cela. Participer à cette fête-là malgré notre péché. Alors, c'était lourd de signification. N'entre pas là qui veut sans avoir réfléchi. Alors, semble-t-il que le fils aîné n'est pas rentré. Et pour le pharisien, aussi, ça c'est contre nature. Hein? Il ne voulait même pas s'approcher des publicains et des prostituées de peur de les toucher et de les laisser souiller. Il y avait un dédain de certaines catégories de personnes de la société. Alors, par définition, c'était contre nature pour un pharisien. Pourtant, c'est ce que Jésus leur demande ici. Venez, entrez. Et il fallait qu'ils se posent les quatre questions qu'on a dit là. Il fallait qu'ils acceptent que des pécheurs puissent être pardonnés. Des gens pour qui il y avait un réel dédain. Alors, seule la grâce va en venir à bout. Jésus, pourtant, lui, il est venu pour appeler des pécheurs, comme le prodigue, comme les fils aînés, comme les pharisiens, comme chacun d'entre nous. Et c'est à chacun de voir s'il entre dans la catégorie des pécheurs, s'il entre dans la catégorie des malades spirituels. À chacun de voir s'il a besoin de Jésus pour le guérir, pour le pardonner. Mais Jésus, lui, est venu pour appeler des pécheurs et il est toujours prêt à pardonner. Amen. Le temps que Christian s'en vienne, on va prier le Seigneur. Seigneur, ta grâce est un grand mystère. Elle opère dans nos cœurs, on ne sait trop comment. Mais en même temps qu'on sait que on est dépendant de ta grâce. On ne serait pas là sans ta grâce. Tu ne nous aurais pas pardonné nos péchés sans ta grâce. Et par la grâce vient la repentance et vient la foi. Et c'est deux ingrédients essentiels au salut de notre âme. Et on te remercie, Seigneur, pour ta grâce, d'avoir été en mesure de comprendre un tant soit peu cette grâce dans nos vies et de la voir nous conduire vers la repentance et vers la foi. Seigneur, on te prie que ces vérités qui ont été exposées aujourd'hui puissent être vivantes et vraies dans le cœur de chaque personne ici présente et que tous les pécheurs puissent effectivement s'en remettre à Jésus. Parce que comme Luc l'a dit aussi un peu plus tôt, il est l'arche pour nous éviter le jugement final. Et c'est une arche qui, dans le temps de Noé, contenait 8 personnes, mais l'arche de Jésus peut prendre tous les pécheurs qui veulent bien entrer. Alors, on te remercie pour cela, Seigneur. Bénis le reste de ce culte et chacun d'entre nous. Amen.